L'ambition de ce rendez-vous n'est pas que de disserter sur le stand-up, à l'heure où les interviews d'artistes prolifèrent et que le tour de la question commence presque à être fait. L'ambition de ce rendez-vous, c'est d'explorer l'univers de création des gens qu'on a en face de nous et qui sont, pour nous et pour vous, chers auditeurs, plus que des humoristes, mais des véritables artistes à part entière. C'est un rappel utile sur le parfum résolument singulier de ce podcast, il fallait le faire. Ce podcast et les personnes qui l'animent pensent que la personne qu'on a en face de nous pour ce nouvel épisode de LOL Me Tender est effectivement beaucoup plus qu'un humoriste. La personne qu'on a en face de nous est un sujet d'exploration artistique très intéressant, tant son air malicieux et léger, contrecarré par sa façon d'être engagée, est en soi fascinant. Nom ?
Dutel.
Prénom ?
Tania.
Génial. Elle est l'invitée, Tania Dutel, de ce nouvel épisode de LOL Me Tender pour Blonde Prod qui démarre maintenant avec ce cher Raphaël qui m'accompagne tel un prophète accompagnant Jésus marchant sur une rivière.
C'est oui, c'est, ce que, voilà. C'est ma bio Twitter, ce que
voilà.
Je viens de dire.
Ouais, exactement. Complètement, voilà. Et ben, je suis ravi de te recevoir, Tania, vraiment.
Bah écoute, merci pour l'invitation.
Bah, avec grand plaisir. Première question, tout de suite, comment ça va la petite santé ?
Écoute, la petite santé va très bien.
Bon.
Toujours un peu fatiguée, mais
ouais.
Ça, c'est, j'ai toujours été comme ça.
D'accord.
Je suis quelqu'un qui est plutôt fatigué dans la vie.
Est-ce que c'est pas un air que tu te joues ?
Non, j'ai toujours été épuisée.
C'est vrai que tu baillais un petit peu avant de venir. Mais
ah
légèrement.
Ouais, non, mais tout le temps. Genre, quand j'étais au collège ou au lycée, je dormais 9 heures par nuit et je faisais une sieste tous les mercredis après-midi. Et
d'accord.
J'étais épuisée tout le temps.
D'accord. Ouais. Moi, j'ai besoin de faire des siestes tout le temps aussi, tous les jours.
Ah ouais, c'est terrible. Hein.
20-25 minutes.
Mais moi, j'aimerais bien, mais j'ai pas le temps. Et quand je me couche pour dormir, 20-25 minutes, ça va pas. Il faut que je dorme au moins 2 heures.
Ah oui, d'accord.
Mais oui.
D'accord, donc c'est très long. Et toi,
ouais.
Raph?
Mais tout comme vous, on est la même team. Énormes dormeurs, en fait, autour de la table.
Team de dos.
Ouais.
Plus sérieusement, comment tu te définirais?
Oh mon Dieu, que je n'aime pas cette question.
Artistiquement.
Eh bien, stand-upeuse.
D'accord.
Je suis une stand-upeuse et humainement. Bah écoute, je suis quelqu'un de gentil qui a l'air d'une grosse connasse au premier abord. C'est un peu chiant ça.
Pourquoi tu dis ça?
Parce qu'on me le dit tout le temps. On me dit tout le temps, putain, mais j'ai un pote qui est venu voir en me disant, mais putain, Talia, elle me regarde trop mal. Et je suis, mais en fait, c'est mon regard. Je suis pas. J'ai l'air d'une connasse au premier abord, c'est assez insupportable. En même temps, t'as pas eu un très bon. Ce que t'as dit la dernière fois là? Quand t'avais dit à Nathan que je t'avais dit oui, je viens uniquement si mon pote québécois vient, je dis attends, alors je vais te remontrer le
d'accord.
message parce que c'est pas du tout
oui,
ce que j'ai dit.
Oui, oui, alors il faut qu'on fasse un petit
contextualiser.
Ah non, mais c'est ouf.
Il faut qu'on fasse un petit rappel. Nathan a volontairement déformé. Alors Nathan Marono, du coup, qui travaille avec moi à Blonde Production, a volontairement déformé des propos qui disaient. En vérité, que Tania avait proposé, très gentiment d'ailleurs, la venue au Blonde Comedy Club d'un ami à elle, ce que j'avais accepté avec grand plaisir. Et pour le coup, Nathan a cru bon de dire à Tania que Tania avait imposé son ami.
Sinon,
elle venait pas. Voilà, c'est ça.
Ah,
pas cool.
Et du coup, elle a dû montrer les messages qu'on s'est envoyés sur Messenger avec Tania pour du coup que Nathan me croit. Voilà. Mais pour le coup, moi, j'ai rien dit. Tu vois, j'étais vraiment très honnête pour le coup.
Mais en même temps, Nathan, il m'a dit la première fois qu'il m'a vu que pareil, j'avais l'air prétentieuse et tout. Je dis oh là 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 là, mais cette image que je renvoie de moi à chaque fois, c'est quand même terrible.
Mais alors, du coup, elle vient d'où? Est-ce qu'elle vient d'une volonté de te protéger? Quelque part
Je pense que, en fait, j'ai commencé dans le milieu quand j'avais 19 ans. Il y a eu beaucoup de gars qui ont essayé de profiter de moi, genre des vieux gars qui me disaient « Je vais faire un film, tu vas voir au principal. » Et en fait, ils disaient « Elle, je suis sûre qu'elle va me sucer pour avoir quelque chose. » Sauf que dans la vie, j'ai jamais fait ça. Et donc, au bout d'un moment, j'étais obligée de mettre une barrière pour que les gens ils arrêtent de venir me parler aussi facilement en croyant que j'allais genre coucher avec eux, quoi.
Ouais. Ça, tu le racontes dans ton spectacle, je crois.
Non, je le raconte pas dans mon spectacle,
d'accord.
Pas du tout.
C'est peut-être ailleurs que j'ai dû le voir, mais j'ai
et
bien entendu.
Peut-être qu'on en a parlé en fait déjà.
Oui, peut-être, ouais. J'aimerais savoir ce que tu retiens, parce que tu as déjà fait de la télévision.
Tout à fait.
Voilà, notamment sur RMC Story.
Et tout le monde connaît cette chaîne d'ailleurs.
Oui.
La fameuse RMC Story.
La fameuse chaîne.
Ne dit-on pas RMC Story, la chaîne que tout le monde regarde.
Exactement.
D'ailleurs, je crois que c'est le slogan,
c'est le slogan de
la chaîne.
Voilà.
Ouais. La chaîne que tout le monde regarde, avec une photo de Jean-Jacques Bourdin qu'on salue pas. J'ai l'impression que ces expériences télé, ça te fait plus stresser que la scène. Est-ce que d'accord.
Ah non, non. En fait, j'ai eu cette chronique en télé juste après avoir tourné pour Netflix.
D'accord.
Quand j'ai tourné pour Netflix, j'ai eu l'impression de jouer ma vie, Donc je pensais qu'à la fin du tournage j'allais mourir parce que ma vie était terminée. Et en fait j'ai accumulé tellement de stress pendant un mois, ce que normalement tu dois avoir dans une vie en fait de stress, que je me suis dit c'est plus possible en fait de stresser comme ça pour le métier que tu fais. Et ma chronique en télé, je me rappelle, je suis arrivée sur le plateau, j'étais en mode mais je m'en branle si je me prends un bide. Ouais. De toute façon, t'es en télé, t'as un public de télé, tu leur fais des blagues, ils comprennent pas.
Bah oui, c'est ça, exactement.
Donc, de toute façon, c'est quand même un peu aller au casse-pipe. Et c'est une très belle expression d'ailleurs, aller au casse-pipe. Et,
ça sera le titre du podcast.
Voilà. Et Tania va au casse-pipe. Et en fait, ouais, j'étais en mode je m'en fous. Et j'ai une vraie liberté depuis que je suis comme ça, parce que du coup comme je m'en fous, ça veut dire que ça veut pas dire que je m'en fous de faire ça et que
oui,
voilà.
Non, bien sûr, non.
C'est juste que bah je me mets plus la pression comme je me la mettais avant, et du coup je prends beaucoup plus de plaisir à jouer.
Ouais, j'aimerais savoir comment tu l'évacues toi le stress quand ça t'arrive encore. J'imagine rarement.
Quand j'ai du stress, si ça m'arrive encore des fois en vrai, je m'étais promis de plus jamais stresser, mais évidemment des fois tu peux pas. Je fais de la respiration en fait. Et au bout d'un moment, je me dis Tania, on avait dit quoi?
À toi-même.
Ouais.
Il y a Tania,
oui,
en tête.
Je me parle beaucoup à moi-même, ouais. Et du coup, je me dis ça, je dis Tania, on avait dit quoi là? Et du coup, après, ça me calme.
On a un point commun tous les deux, on note tout ce qu'il y a autour de nous, dans notre téléphone, dans les notes. Dès
tout
qu'on
à
a
fait.
Une petite pensée, donc on a un truc, on le note. Voilà. Et moi, c'est parce que ça vient d'un truc un peu angoissé que j'ai. Je crois que je suis quelqu'un d'assez angoissé. Et quand il m'arrive de faire des scènes, et ben moi, je stresse à mort, quoi, à mort. Et j'arrive rarement, moi, du coup, à ne pas stresser, justement. Paradoxalement,
ouais,
à toi.
En fait, moi, quand j'étais encore au stade où je faisais que des plateaux et pas encore mon spectacle, je stressais pour chaque plateau. Après, quand j'ai eu mon spectacle, je stressais plus pour les plateaux, je stressais pour mon spectacle. En fait, t'as des étapes. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu.
Ouais.
Il y en a qui stressent encore pour les plateaux, mais moi, depuis que j'ai eu mon spectacle, je stresse plus pour les plateaux. De toute façon, on est plusieurs à jouer. Si le public il t'aime pas, bah il y en a un autre qui arrive
oui.
Après, et le public il va pas se rappeler de toi, donc c'est vraiment, c'est pas grave.
Oui, même si t'as fait un énorme carton, ils vont pas te regarder à la sortie, quoi.
Ah oui, c'est ça.
Ouais, ce qu'on m'avait dit aussi.
Ouais.
On a un autre point commun, c'est qu'on a tous les deux l'âge béni de 30 ans.
Ah.
Ouais, oui, on a tous les deux 30 ans. Question assez générationnelle pour le coup, est-ce qu'à 30 ans sur scène, c'est un peu comme 33 ans dans la vie, c'est un âge où on sent de la maturation? Notamment artistique.
Bah écoute, ça je sais pas, je pense que ça dépend depuis combien de temps tu fais ça, ça dépend pas que de ton âge, mais effectivement à 30 ans on a plus de choses à dire qu'à 20 ans, mais on en a moins à dire que forcément plus tard.
Oui.
Je sais pas, pour moi c'est pas forcément lié à l'âge.
Même dans ton processus d'écriture.
Je sais pas. Je sais pas, je me suis pas posé cette question. Le seul truc dont je me rends compte, c'est que ça fait pas longtemps que j'ai 30 ans, tu vois, c'est depuis le mois de juin, mais le jour où j'ai eu 30 ans, je me suis dit, putain, j'ai l'impression d'être plus légitime quand je parle de trucs où les gens, quand je pouvais avant parler de sujets avec un vrai fond, les gens pouvaient me dire, ah non, mais elle est encore dans la vingtaine, c'est une gamine, c'est comme si j'étais pas légitime, alors que avec l'âge, j'ai l'impression de le devenir. Donc c'est mon impression à moi, mais j'ai l'impression qu'elle se vérifie quand même beaucoup, cette impression-là.
Est-ce que tu penses que le stand-up français, je sais pas, c'est objectif comme question, parce que ça m'intéresse de savoir, est-ce que le stand-up français a encore du mal avec les sujets sérieux, là où par exemple aux États-Unis, Sarah Silverman fait des blagues sur la Shoah, le féminisme, le racisme, tout ça. Est-ce que tu penses qu'on a encore un peu de mal en France à accepter l'idée que le stand-up, ça pouvait être un vrai motif de discours profond, quoi?
Non, parce que les stand-uppers le font de plus en plus, et je crois que le public réagit plutôt bien à ça. C'est juste le fait de bien faire des blagues, puisque il y a beaucoup d'humoristes qui veulent faire des blagues sur la Shoah, sur le racisme, tout ça, mais en fait, ils vont dans la provocation. Tu peux faire de la provocation, mais il faut que ce soit bien fait. Et la plupart, enfin, il y en a beaucoup pour qui c'est pas du tout bien fait. Et en fait, ils disent, oui, je suis incompris, non, t'es pas incompris, c'est juste que vraiment, tu as mal fait ta blague, en fait, là. Donc, on peut parler de...
Ouais.
Mais non! Mais on peut parler de tous les sujets, mais il faut bien le faire. Il ne faut pas que ce soit que dans la provocation, quoi. Parce que c'est pas, il n'y a rien de drôle à faire que ça.
Toi, les sujets que tu abordes dans ton spectacle, tu les abordes parce que tu l'as vécu.
Ouais.
Et du coup, quelqu'un qui n'a pas vécu des sujets comme le racisme, est-ce que pour toi, elle est légitime à en parler?
Alors, j'ai eu cette discussion avec Shirley Soignon qui nous pousse un peu tous à parler justement du racisme, de la condition des Noirs, tout ça.
Elle a réussi à convaincre Lenny.
Ouais. Et elle a réussi aussi à me convaincre. J'ai fait un passage, ils ont un plateau tous les deux qui s'appelle le CFA.
Oui, comédie. Bah oui, vous en avez parlé.
On en a parlé ici.
Ouais, ouais. Et donc je l'avais fait, et parce que moi je ne l'ai pas subi ce racisme-là, mais c'est là où j'ai trouvé mon angle, c'est que je fais partie des gens qui, à des repas de famille ou avec d'autres gens, doivent dire « Non ! Ce que tu dis, ce n'est pas vrai, en fait. Les Noirs ne sont pas comme ça, les Arabes ne sont pas ouais. comme ça, c'est nul de dire ça. Ouais. » Donc, en fait, c'est l'angle que j'ai choisi de prendre, en fait. Ou quand, notamment, je parlais pas mal des femmes noires à un moment, ben, en fait, je parlais aussi de leurs conditions de femmes.
Oui.
Pas que de leur couleur de ouais. peau, mais ouais. aussi de leurs conditions de femmes. Donc, voilà, c'est le fait de trouver un angle qui va être intéressant. Mais après, il y en a qui peuvent mal le prendre, des fois, quand... Tu sais que tout ce qu'il va y avoir d'appropriation culturelle et tout ça, des fois, c'est toujours un peu délicat de parler de ça.
Est-ce que tu as déjà eu des réactions, notamment quand tu parlais de ça, sur scène, dans le public, des gens qui étaient un peu mal à l'aise avec ces sujets?
Écoute, non, parce qu'au final, avant, je parlais dans mon spectacle, mais c'était des femmes noires. C'est toujours bien passé. Mais je l'ai enlevé parce que c'était bien, mais c'était pas assez drôle. Mais j'ai vraiment envie de retravailler dessus. Après, quand j'ai fait le plateau CFA, c'était un truc dans la bienveillance et tout. Donc, il ouais. y a personne qui...
Oui.
Tu vois, après chaque passage, on débattait avec les gens. Donc, c'était vraiment un truc dans la bienveillance. Et j'ai senti que les gens, ils savaient que j'étais pas là pour... Enfin, j'étais là justement bienveillante aussi avec ça, quoi.
Et puis, c'est assez confortable de jouer dans un plateau où Shirley joue.
Ouais.
Parce qu'elle met une espèce de confort, comme ouais. ça, une chaleur.
Ouais, ouais.
Qui est très belle. Shirley Soignon, d'ailleurs, petite incise, mon cher Raph, qui, lors d'une vidéo en direct sur Instagram, il y a quelques jours, avait conseillé les coups de Love Me Tender.
Oh là là.
Ça, faut que je te le raconte. Oh là là, et bon. Ça, c'était. Moi, je suis tombé sur cette vidéo par hasard.
Ah ouais?
Ouais. Et il y a quelqu'un qui a dit, ouais, je t'ai écouté dans Love Me Tender. En fait, elle était venue au premier épisode.
Ok.
Ou au deuxième, je sais plus.
Et c'est la première. C'est la première.
Ouais, c'était la première, voilà. Elle avait inauguré. Et du coup, elle fait, ah, bah, t'écoutes Love Me Tender. Ouais, je conseille grave et tout. C'est
génial,
cool.
On la remercie. Donc, merci beaucoup.
Et oui, on cool. embrasse. J'ai un peu vu ce que faisait, parce que tu parles beaucoup de Sarah Silverman dans ouais. tes interventions presse, télé.
Ouais.
J'ai vu un peu ce qu'elle faisait, Sarah Silverman qui reste avec Ricky Gervais dans ton panthéon d'humoriste préféré, on va
ouais.
dire. Hein. Et effectivement, on voit beaucoup, mais tu le fais pas exprès, elle le fait pas exprès non plus, beaucoup de similitudes dans la façon d'amener la vanne, dans la façon d'amener le discours. C'est très pince sans rire, c'est pas dit en surdosant le rire ou en surdosant le sourire. Mais c'est très efficace. Moi, je t'avais dit après ton spectacle que ce que tu faisais, objectivement, c'est très efficace. Et Sarah Silverman aussi.
Ouais.
Du coup, est-ce que c'est via ça aussi, dans ces similitudes de jeu, que tu t'en sens proche et pas que dans les thèmes qu'elle aborde?
Alors, déjà, pour quand même replacer les choses, parce qu'avec la vague copie comique, merci.
oui, j'avais attendu. Dans le jeu, hein, pas dans
alors,
la vanne, évidemment.
Sarah Silverman, donc moi, je suis pince sans rire dans la vie, en fait.
Oui.
Donc sur scène, je suis comme je suis dans
oui.
la vie.
Ouais.
C'est Swann Périssé qui m'a parlé de Sarah Silverman, en fait, après m'avoir vu beaucoup jouer. Elle m'a dit, putain, tu me fais vachement penser à Sarah Silverman. Je la connaissais pas. Donc après, j'ai regardé ce qu'elle faisait et effectivement, j'ai vu qu'il y avait des similitudes. Donc ce n'est pas parce que je l'ai vu, je dis,
non,
je
oui,
veux ramener
non.
ça en France. Voilà.
Non,
on va replacer les, ouais. les choses.
C'est pour ça que je parle de similitudes naturelles. Mmh.
Ouais,
voilà.
Mais attends, c'était quoi la question? Parce que du coup, j'ai voulu quand même replacer le
oui.
truc.
Oui, alors est-ce que dans ces similitudes, du coup, c'est via ça aussi que tu t'en sens proche? C'est la façon, pour le coup, très
ah,
naturelle.
Ah non, c'est parce que, bon, elle est plus âgée que moi. C'est
oui.
une femme qui doit avoir à peu près 45 ans, je crois.
Ouais.
Mais c'est une femme qui n'a pas d'enfant, qui a été quand même pas mal célibataire. En fait, je crois qu'on a un peu... le même style de vie, quoi.
Mmh.
C'est tout simplement ça, tu vois. C'est comme, à un moment, j'étais beaucoup comparée à Amy Schumer.
Oui.
Et en fait, Amy Schumer, quand tu regardes, oui, c'était une meuf qui avait 30 ans, elle était célibataire, à un moment, tu vis les mêmes choses.
Mmh.
Donc, sur scène, quand tu parles de ta vie, forcément, il y a un moment, ça se rejoint aussi, quoi.
Mmh. Ce que dit Sarah Silverman très souvent, c'est que le rire permet de mieux produire, construire une pensée, et ainsi de mieux la faire passer dans l'opinion. Est-ce que tu penses pareil?
J'avais jamais entendu qu'elle disait ça, mais effectivement, c'est très juste. C'est très juste. C'est un truc un peu pédagogique, j'ai l'impression. Tu vois, c'est comme quand t'es à l'école, t'aimes pas quand les profs ils te gueulent dessus, t'arrives pas à comprendre ce qu'ils veulent dire. Quand ils te parlent calmement, là, tu comprends. Et je pense qu'avec le rire, on peut aussi faire passer des messages. On n'est pas des membres du gouvernement ni rien, mais
ouais.
on peut faire passer des messages.
Ça peut même être encore plus réussi qu'un discours présidentiel.
Disons que là, ça devient compliqué de faire pire qu'eux. Donc, ouais.
Ouais, c'est quand même plus agréable à écouter, je trouve.
Ouais. Non, non, mais là, Castaner et tout, non, mais mon Dieu, on m'en a parlé, là, vendredi, j'ai dit, mais c'est pas... Ouais. Je voyais partout le hashtag signaleur musulman et tout, je comprenais pas. Après, j'ai vu que c'était une blague, donc je dis,
oui,
bon, bah, c'est une blague.
Parodique, ouais.
Et après, quand j'ai vu les trucs de Castaner, avec, genre, quand il parle des signes religieux, j'ai dit, mais mon Dieu, mais j'ai tellement d'amis à signaler, alors, ouais. Quoi. C'est un truc de malade.
Ouais, ouais.
Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Dans le stand-up, tu sais, c'est hyper hétéroclite. Il y a tellement de, bah justement, de noirs, d'arabes qui sont musulmans, de noirs qui sont aussi musulmans. Et du coup, je me dis, mais la plupart de mes potes dans le stand-up, je dois les signaler.
Bah, il y a du boulot, hein, c'est
ouais.
Ce que j'ai.
Alors, Jason Brokers en prison, direct.
Jason Brokers, je dois le signaler, quoi. C'est mon ami, mais je dois aller leur dire, excusez-moi, il a une barbe.
Ouais.
Et,
elle est très longue,
et il est croyant, ouais. Il pratique le ramadan. Il veut le faire tous les jours, ce gars. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Apparemment, il faut que je le signale.
Ouais. Il paraît qu'il fait la prière 5 fois par jour. Alors, ça, c'est vraiment.
Appelons tout de suite la police.
Ouais, non, direct.
Mais oui, c'est ça.
Pharo,
c'est
la plateforme.
Ça.
Mmh.
Mais c'est vrai qu'une fois, on parlait, il me disait qu'il me parlait d'attentat. Non, je rigole.
Non, mais quel enfer. Il a l'air de justifier.
Oh là là. Mais non, mais putain, c'est tellement énervant ouais. De voir tout ça.
Et c'est trop marrant parce que la question du voile, parce que c'est de ça qu'on parle. C'est parti de là, on le ramène aussi à une question de genre. C'est comme quand Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, disait qu'un des motifs possibles de signalement, c'est quand un petit garçon, tu l'avais vu ça ?
Non, ça me dit rien ça.
Quand un petit garçon refuse de tenir la main d'une fille à l'école, ça veut dire qu'il peut être radicalisé.
Ah bon ?
Ouais.
Mais non.
Si, je te jure.
Oh là 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 là. Je vais te montrer mon petit neveu blond aux yeux bleus qui des fois veut pas tenir la main d'une fille et
mais
puis ben on va aller
ouais,
le... ouais. Je crois qu'il a été radicalisé mon
c'est
pauvre petit Rémi.
Abou Dutel.
Ah là là. Abou Dutel.
Ouais.
Abou Rémi. Ah là là.
Tu sais que Sarah Silverman, pour le coup, on arrête avec elle après, milite pour Bernie Sanders, est très démocrate, très ouais. Engagée politiquement et qu'elle est engagée du coup au Parti démocrate. Est-ce qu'il pourrait t'arriver la même chose? Est-ce que toi tu pourrais te servir de ton humour pour après t'encarter dans un parti ou soutenir un homme politique, tu vois, aller carrément à une convention socialiste ou écologiste et faire un discours, du coup. Est-ce que tu sens aussi cette... Parce que tu parles de choses sociétales,
ouais.
Très bien, avec un vrai avis. Est-ce que tu as envie d'aller plus loin à un moment donné?
Écoute, moi je suis bénévole à la Fondation des Femmes. Donc oui. On n'est pas du tout dans un parti politique, mais m'engager pour des causes que j'aime, oui, là en politique en France, pour l'instant, j'ai encore rien trouvé que je trouvais vraiment bien, quoi.
Ouais.
Ouais.
Moi je trouve ça politique déjà, hein. En soi, c'est,
oui,
ouais, c'est politique.
C'est politique déjà, ouais.
Ouais. Mais il y en a qui poussent la conscience jusqu'à
être encarté, etc.
Ouais, voilà,
bien
ça,
sûr.
Tu vois. Mais oui, c'est pas ton cas. Bon,
non.
Ça arrive, très bien. Dans ton spectacle, il y a une grosse part de confession.
Ouais.
Sur ta famille, voilà. Et beaucoup de féminisme, mais on sent dans le propos féministe qu'il y a finalement rien de militant, juste des trucs qui te sont arrivés et que tu tiens à raconter.
Ouais.
Est-ce que tu voudrais que le propos soit plus militant et est-ce que c'est quelque chose que tu vas rechercher à terme? Est-ce que tu vas partir de ton vécu pour ensuite, après, faire ouais, du militantisme féministe sur scène, quoi?
Avec bon, en fait, ça dépend des moments, parce que ouais. Pendant toute une période, j'avais une grosse partie sur l'hashtag MeToo. Je faisais des blagues sur les propos de Catherine Millet, Brigitte Lahaie,
oui.
Avec On peut jouer lors d'un viol, je regrette de jamais avoir été violée, comme ça je pourrais témoigner que du viol on s'en sort, tu vois, ouais. Je faisais des blagues sur ça.
Ouais.
Donc là, il y avait un côté plutôt militant. À un moment, on peut pas garder ça pendant des années parce que c'est plus du tout d'actualité. Donc je l'ai enlevé de mon spectacle, donc ça dépend un peu de ce qui se passe aussi dans l'actualité. Moi j'aime parler justement de... aborder de ma vie pour raconter un fait de société, mais rendre un spectacle plus militant. En fait justement, mais je crois que je t'en parlais déjà, j'ai l'impression que pour que les gens t'écoutent, il faut pas que t'aies l'air trop militant.
Ouais, c'est pas faux. Oui, ça peut cliver.
Et donc je trouve ça plus intéressant, tu vois, c'est ce que je te disais, jamais dans mon spectacle je dis le mot féminisme, je le dis
oui.
Pas une seule fois
c'est
en
vrai.
Fait. Et c'est important pour moi de pas avoir un côté trop militant parce que j'ai l'impression que le message il passe mieux comme ça.
Ouais. Pourquoi? Parce que ça peut être plus clivant de dire féminisme.
Mais parce que ça peut braquer des gens. Ça peut vraiment braquer des gens. Il y a un vrai problème aujourd'hui avec le mot féminisme et ça peut vraiment braquer des gens en fait.
Parce qu'il n'est pas le cas aux États-Unis.
Ce n'est pas du tout le cas aux États-Unis, mais...
c'est là la vraie différence, quoi, du coup.
Ouais, mais tu sais qu'en France, on a toujours voulu remettre tout en question, hein, donc ça ne va pas s'arrêter demain.
C'est intéressant, ça. Qu'est-ce que tu penses qu'on remet en question? Bah, outre le féminisme, peut-être.
Non, mais enfin, je veux dire, les Français ont toujours manifesté, ont toujours dit quand ils étaient pas contents. Et regarde, quand il y a eu les nouveaux mots de vocabulaire qui sont passés, comme le mot autiste, tout ça, où tout le monde faisait des blagues sur Facebook et on dirait autiste. Et il y en a, je dis non, mais il l'avait déjà dit 3 fois. J'ai dit non, mais veux-tu encore le dire une 4e fois? Je crois qu'on n'a pas encore tous compris là.
Ouais.
Et en fait, c'est juste que voilà, les gens étaient pas contents parce que il y avait certains mots qui avaient été féminisés. Sauf que la plupart des gens ne savent pas que à la base la langue française n'était pas aussi misogyne, elle est devenue misogyne au XVIIIe siècle. Et en fait, ce truc-là est passé. Est-ce qu'on peut pas se dire, ok, on est content, on va pas maintenant faire des manifestations pour revenir aux mots d'avant.
Bah ouais.
On est content, il s'est passé ça.
Ouais.
Passons à autre chose. Mmh. Toi, c'était comme avec le truc de Mademoiselle. Y en a qui étaient pas contents parce que Mademoiselle existait plus. Est-ce que vraiment c'est très grave? Est-ce que vraiment c'est très grave, tu vois? C'était pas le truc, parce que tout le monde dit oui, il y a d'autres choses plus importantes à mettre en place. Oui, il y a d'autres choses plus importantes à mettre en place. Visiblement, on peut pas le faire encore maintenant.
Mmh.
Donc, visiblement, si maintenant on peut enlever le mademoiselle et féminiser des mots, et bah commençons par là, en fait.
Ouais.
Et on va y aller étape par étape.
Ouais.
Mais tu vois, comme le rouge dans les publicités pour les règles, il y en a qui sont choqués, mais tu le vois que c'est juste un truc rouge. On le voit que c'est pas du vrai sang, en fait. Donc, qu'est-ce qui te choque? Est-ce que quand tu vois un feu rouge, tu te mets en PLS et t'appelles les pompiers? En plus, les pompiers, la couleur est rouge. Enfin, tu vois, est-ce qu'à un moment, c'est juste la couleur rouge? On voit que c'est pas du sang, on le voit. Donc il faut arrêter avec ces trucs-là, quoi.
Est-ce que ce pays, il évolue dans sa façon de régresser sur cette question? Est-ce que tu penses qu'on recule contrairement à d'autres pays qui avancent sur la question notamment du mariage pour tous, du mariage homosexuel, tu vois? Avec les polémiques sur le voile, tu vois, est-ce qu'on n'a pas un retour avec la montée des extrêmes, mais un retour pour le coup très sérieux qui peut se concrétiser par une arrivée dans 3 ans du FN, tu vois, mais une vraie arrivée, quoi, maintenant, tu vois, c'est parce que là, le vote utile, on l'a déjà fait, tu vois, Chirac, Macron.
Ouais, ouais.
Et Macron, c'était tout de suite, alors que Chirac nous avait fallu une deuxième élection, tu vois.
Ouais.
Là, est-ce que tu sens pas un blocage, tu vois?
Écoute, je sais pas, parce que tous les trucs dont t'as parlé, c'est que des questions de femmes, au final, puisque le voile, pour moi, c'est pas une question de religion, c'est une question encore de femmes. Parce que si on parlait vraiment de religion, on demanderait aussi aux hommes d'enlever leur djellaba, tu vois.
Ouais,
en
ouais.
fait, donc en fait, c'est moi, pas une question
de. Je la porte chez moi.
Tu vois, pour moi, c'est pas une question de religion. En fait, c'est une question de femme. En fait,
oui,
quand
oui,
vraiment tu décortiques les trucs.
Ouais.
Et effectivement, bah, j'avais lu un bouquin sur les avancées féminines à travers les siècles. Et en fait, il disait qu'à chaque fois, les femmes avaient de nouveaux droits, quelques décennies plus tard, elles les perdaient. Et en fait, c'est pour ça qu'il faut vraiment qu'on reste toujours sur nos gardes.
Oui.
Et c'est pour ça, tu vois, genre la série de Handmaid's Tale, alors je sais que ça va pas nous arriver, mais en fait, on sait pas. Les Américains, ils sont vraiment malades.
Ouais.
Il faut faire attention à tout ça.
Oui, mais les Américains, ils peuvent guérir. Parce qu'ils ont connu Trump. Et que du coup, après, avant de connaître un nouvel épisode de ce genre... Tu vois,
mais ils ont l'air contents en fait d'avoir Trump, puisque visiblement il est quand même en bonne voie pour repasser.
C'est réaliste, tu penses?
Ouais.
Moi je pense que Bernie Sanders c'est pas mal, hein, quand même.
Et bah écoute.
Ça serait pas mal à couper, par contre.
Ça serait très étonnant de la part des États-Unis, tu vois. C'est quand même pas du tout dans leur culture d'élire un président de ce bord-là.
Ouais, mais
aussi radical.
Ces mecs étaient débiles, quoi.
Mais oui, mais en fait, c'est qu'à la base, tous les démocrates qui avaient voté pour Bernie Sanders ne voulaient vraiment pas d'Hillary Clinton.
Oui.
Ils n'ont pas voté au deuxième tour. Et donc, Donald Trump a eu moins de voix que celui qui avait perdu contre Obama aux élections précédentes. Donc, il a vraiment pas eu beaucoup de voix. Mais il a perdu. Il y en a trop qui n'ont pas voulu aller voter parce qu'ils ne voulaient pas avoir Hillary Clinton.
Et t'as vu la colère de Sarah Silverman quand elle avait dit dans la convention démocrate justement qu'elle allait voter finalement, du coup, parce que Bernie Sanders avait peu de chances d'être élu, qu'elle allait voter Hillary Clinton. Elle s'est fait huer comme pas possible. Elle a dit oh, vous êtes chiant, elle est partie.
Non mais c'est ouf.
Ouais.
Mais moi Macron, en vrai, je ne le voulais pas.
Ouais, bah non.
Mais et je me rappelle, j'allais chez mon frère le jour des élections. Je prenais un train hyper tôt le matin. Je me suis levée aux aurores. J'attendais devant le truc de vote là pour être la première, tu vois, pour pouvoir aller voter et prendre mon train pour voter Le Pen. Non, je rigole. pour vraiment voter Macron parce que j'étais en panique. Et le soir, quand j'ai vu aux infos que c'était Macron qui était passé, genre, j'ai eu les larmes aux yeux tellement j'étais pas contente que ce soit lui, mais j'étais contente que ce soit pas Le Pen, quoi.
Mmh. Oui, parce que le truc, et on en parlait d'ailleurs dans un autre podcast qui s'appelle Osons Causer, on avait, qui s'appelle Well Respect, on avait reçu le mec d'Osons Causer, je sais pas si tu vois un peu la chaîne YouTube là, qui décrypte un peu les vérités, les mensonges du gouvernement, bref, nan, nan. Et il disait exactement ce que tu dis sur, sur Macron. Parce que c'est quelqu'un d'a priori qui a l'air très gentil, très sympa. Ouais. Mais qui, derrière, est en train de fracasser.
Il faut s'en méfier, regarde. Moi, j'ai l'air d'une connasse et au final, je suis tellement gentille.
Moi, personne, j'ai jamais dit ça.
Il
j'ai
faut se méfier des gens qui ont l'air trop gentils, tu vois.
Ouais. Alors, il y a aussi beaucoup d'espoir dans ton spectacle qui nous porte vraiment, parce qu'il y a pas mal de changements de rythme et de ton. Il y a vraiment du rythme, ce qui est à la fois surprenant et prenant. Quand tu racontes, par exemple, des choses sur le désir sociétal d'avoir des enfants ou la question du mariage, ça fait très « un jour, mon prince viendra », mine de rien. Il y a un peu d'idéalisme dans ça, non?
Bah, tu
quand
rigoles.
Quand tu parles de ta robe, nanana. Oui, mais c'est...
Mais
oui,
attends, mais je suis en train de dire que je rêve d'avoir des enfants, mais que, mais certainement, j'en aurais pas à cause de tout ce qui se passe sur la planète.
Bien sûr.
Il n'y a pas trop d'espoir dans tout ça, quoi.
Non, mais moi, je regarde tes yeux quand tu dis « j'aimerais avoir des enfants », tu vois. Et il y a quand même... Tu vois ce que je veux dire? Il y a quand même une volonté.
Mais
alors,
parce
certes,
que je
après...
le joue. Mais après, les trucs de mariage... Non, mais parce qu'il n'y a pas un fond de vérité là-dedans. Mais oui, évidemment que j'ai envie d'avoir des enfants, mais je sais pas si c'est une bonne idée aujourd'hui, quoi. Et après, le truc du mariage, non, mais parce que... Mais tout ce que je dis est vrai, en fait, c'est que vraiment, bien j'ai pas envie de me marier, mais j'ai envie qu'on me demande en mariage, tu vois. J'ai envie qu'il y ait quelqu'un qui soit assez amoureux de moi pour me demander en mariage. Et que moi aussi, évidemment, je suis amoureuse de lui.
Alors, Raph, est-ce que tu veux épouser?
Bah, on n'est pas amoureux, c'était pas ça, moi.
Ouais,
je,
c'est pas ça l'idée,
qu'on soit amoureux,
non,
en fait.
Jouer un truc,
c'était pas genre juste, il y avait un gars et il demande en mariage.
Ben oui, parce que ça, je peux en trouver. Ouais. Mais, mais c'était d'être amoureux avec quelqu'un, quoi. Voilà.
Ça va arriver.
Bah écoute, Inch'Allah, comme on dit. Hein.
Exactement.
Ouais.
C'est Mustapha Latraci qui donne envie de faire du stand-up.
Ouais.
J'ai trouvé ça, personnellement, curieux. Parce qu'il me semble, mais je peux me tromper, que vous êtes aux antipodes en termes de style.
En fait, c'est le fait de...
C'est très énervé, Mustapha Latraci. Hein.
Oui, tout à fait. Mais moi, je l'ai vu il y a plus de 10 ans et c'était pas comme ça. Hein.
Oui, c'est vrai que ça a changé énormément.
Ouais, ouais.
D'accord.
Il n'était pas du tout comme ça.
Qu'est-ce qu'il prend pour être aussi énervé?
Ah, écoute, je ne sais
pas. Un litre de café.
Ouais, certainement. Non, moi, je l'ai vu. En fait, je venais d'arriver à Paris. C'était une copine qui était en BTS avec moi qui m'a dit « Vas-y, viens, on va voir Mustapha à Latraci. » On y est allé. Et en fait, en le voyant, je dis « Mais en fait, c'est ça que je veux faire de ma vie. » Donc, en fait, si ce soir-là, j'étais allée voir, je sais pas, moi...
Tex.
Tex. Si j'étais allée voir Tex, je me serais dit « Bah, c'est pas ça que je veux faire. »
Tex d'ailleurs qui sera le prochain invité hein, qui viendra
juste après,
ouais, juste après il attend derrière la porte là.
Bon bah super,
il a plein de trucs à te dire,
je vais lui serrer la main.
Il a plein... peut-être qu'il voudra pas te tenir la main du coup, il faudra le signaler.
Ouais.
Peut-être qu'il va te demander en mariage,
il a déjà été signalé de toute façon.
Oui, ça c'est déjà fait,
Inch'Allah il va en prison. Est-ce que tes parents ont vu ton spectacle?
Non mais ils ont vu Netflix.
D'accord, et qu'est-ce qu'ils en ont pensé?
Écoute, alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un jour, c'est moi qui ai envoyé un message à ma mère en disant « Mais est-ce que vous avez vu Netflix ?» Elle m'a dit « Mais oui !» Et je dis « Tu peux pas m'appeler. Tu peux pas m'appeler pour me dire « On a vu Netflix ?» Non, donc c'est moi qui lui ai demandé. Et du coup, j'ai dit « Mais alors ?» Et elle m'a dit « Bah écoute, ton père a beaucoup rigolé, mais moi j'avoue que ça m'a fait beaucoup trop de peine parce que je me doute que ce que tu racontes est vrai. »
Comment t'as réagi, toi?
J'ai dit « Bah écoute, c'est la vie, qu'est-ce que tu veux que je te dise ?»
D'accord, moi si j'avais été à ta place et si ma mère me dit genre tu m'as déçu, je...
Mais elle m'a pas dit que je l'avais déçu.
Non, dit ce qu'elle avait vu, elle avait un peu déçu.
Non, ça l'a pas déçu, ça lui a fait de la peine.
Oui, mais c'est un peu la même chose.
Pas exactement, non, pas exactement.
Non, c'est pas la même chose, non.
Un truc un peu triste, quoi, tu vois.
Oui, mais ça déçoit pas, c'est que ça lui fait de la peine parce que je parle beaucoup de mes relations avec les hommes et que du coup, elle savait pas que je vivais tout ça.
Moi, elle le sait, et en plus, elle peut en rire.
Ah bah, visiblement, ça la fait pas rire.
Peut-être que c'est le bon.
Ouais, je pense que mon père, il a pas compris. Je pense qu'il pense que j'invente des trucs, en fait. Ouais.
Parce que moi, c'est quelque chose que j'admire beaucoup, c'est l'investissement humain considérable qu'on a de parler de soi devant des gens qu'on connaît pas.
Ouais, c'est pas toujours évident.
Mais toi, t'as l'air de le faire easy, quoi. Détail.
Ouais, mais en fait... J'ai commencé comme ça sans trop me poser de questions et après quand il a commencé à avoir des captations, j'ai dit putain en fait c'est chaud parce que maintenant
les gens vont savoir.
Ça reste gravé quoi.
Ouais.
C'est sur internet tout ça, ça devient compliqué. Après
je trouve que dans ce sens-là tu as un peu la même démarche que Blanche dans le côté en deux phrases, je vais livrer des trucs archi intimes comme ça. Et c'est ça qui provoque finalement le. Enfin, on s'y attend trop pas, on se prend une espèce de coup derrière la nuque et on fait ah ouais, ok, d'accord.
Mais
c'est
en
un peu la même idée, quoi, je trouve.
Ouais. C'est juste que moi, je me dis, il doit y avoir beaucoup de meufs qui vivent les mêmes choses que moi, et même des mecs d'ailleurs. Et que peut-être que de raconter ça sur scène, au moins ils disent, bon, bah, il n'y a pas que moi. C'est un peu une thérapie de groupe, quoi, que je fais.
Moi aussi, je me demande si je vais avoir des enfants, d'ailleurs.
Ah ouais?
Ouais.
Mais tu vois.
Je sais pas si je vais me marier, je sais pas si je vais avoir des enfants. C'est compliqué.
Ouais. T'as pas envie de te marier?
Non, parce que je ferai plus du tout en amour, moi. Vraiment plus.
Ah ouais?
Non.
Mais enfin.
Et pourtant, Mounir, est-ce que tu veux. Non, je déconne.
Je t'aime depuis au moins 10 ans. Mais tu vois, pour la même question que toi, qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants? Tu vois, quoi va ressembler le monde? Tu vois, dans 20, 30 ans, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut la peine?
Ouais.
Je sais pas. Sans non plus tu vois, tomber dans des trucs très misérabilistes, tu vois, mais.
Non, et puis là, moi, tous les gens qui font des enfants, à chaque fois, ils me disent non, mais parce que moi, je pense que mon enfant, c'est lui qui va sauver le monde. Et je dis d'accord, donc il n'est pas encore né. Que t'es déjà en train de dire que c'est Bruce Willis, en fait. Ton enfant est Bruce Willis. Peut-être que ton enfant, il va rien faire du tout de sa vie, en fait. Ouais. Il va vouloir devenir influenceur.
C'est ça.
Insta, oui. Proposer des mois 70% sur Vinted. Ouais.
Moi, j'ai mon grand frère, il m'a dit, l'un de ses meilleurs potes, c'était l'anniversaire de son neveu. Son neveu, quand ils lui ont demandé ce qu'il voulait pour son anniversaire, il a dit une chaîne YouTube avec des abonnés.
Wow.
Pour son anniversaire, il voulait une chaîne YouTube avec des abonnés.
Ouais. En faisant des vlogs. Il ferait des
mais
vlogs.
C'est ouf.
Ouais.
Donc voilà, là, compter sur vos enfants, je sais pas si c'est une bonne idée, parce qu'ils veulent devenir influenceurs ou youtubeurs, donc je sais pas si c'est avec ça qu'ils vont sauver le monde, quoi.
Ouais, c'est un peu angoissant, c'est un peu angoissant.
Mais oui.
Est-ce que tu connais le footballeur Thierry Henry?
Bah, le handballeur, tu veux dire?
Oui, le handballeur, pardon.
C'est le seul truc dont je me rappelle de lui.
Non, alors le foot, le... Ah oui, putain, oui, le truc de... Oui, tu rappelles...
Ah, tu viens de comprendre.
Ouais, le truc
oui,
de la main.
Il avait fait la main, ouais.
La main contre l'Irlande. Ah ouais, c'est incroyable, ça. Mais
alors,
bon, il était obligé.
Je me rappelle
on avait
pas,
un même débat sur... On avait eu le débat aussi sur... Mais on avait parlé de ça, on n'a pas parlé de Thierry Henry. Déjà.
Non, on c'est avait quel... parlé de Zidane, non?
Oui, de Zidane. Ouais. Oui. Et toi, tu disais qu'il
évidemment.
Fallait. Ouais. Ouais, elle me disait qu'il fallait pas que, qu'il aurait pas fallu que Zidane mette le coup de tête sur Materazzi.
Ah, mais oui, mais évidemment, ouais. C'est le.
Mais moi, j'ai
grand
non.
Débat.
Moi, je t'ai dit, je lui pardonne tout.
Oui.
Je t'ai dit, c'est Zidane,
oui.
Il fait ce
c'est
qu'il
ça.
Veut, je lui pardonne
exact.
Tout.
Et moi, je t'avais répondu,
c'est toi qui disais qu'il fallait pas. Ouais, c'est toi qui disais qu'il aurait pas dû. J'ai dit, mais moi, je lui pardonne tout. En fait, c'est Zidane. Il fait ce qu'il veut.
Ouais. Et moi, je pense toujours qu'il a pardonné parce que s'il était resté sur le terrain, je pense qu'on aurait gagné la Coupe du Monde. On aurait eu 3 étoiles.
Putain.
Ça aurait été une autre fête de plus, quoi.
Mmh, ouais, Zidane, quoi.
Ouais, je suis d'accord avec Tadir. Il peut faire ce qu'il
veut. Il peut faire ce qu'il veut, c'est Zidane, en fait.
C'est limite grand comme il est parti, même si c'est minable ce qu'il a fait. C'est quand même un peu grand, je trouve, parce que c'est Zidane, tu vois.
C'est vrai qu'il y a la belle photo où il passe comme ça, tête baissée à côté de la Coupe du Monde. Cette photo, elle est incroyable.
Ah, putain.
Non, je te parlais de Thierry Henry, le footballeur d'Arsenal, qui avait marqué énormément de buts quand il était, du coup, à Arsenal, tu vois. Parce qu'il.
Je connais pas le alors, foot, en fait. Hein,
parce,
donc,
que, parce qu'en interview. Ouais. Il disait qu'il marquait des buts parce qu'il était proche du public. Parce que le public était vraiment très proche de lui. Tu vois, il y avait le bord du terrain et juste au bord du terrain, il y avait le public.
Okay.
Du coup, en fait, ça créait un truc
une
un peu
d'énergie, ouais.
Ouais, une énergie, une intimité et tout. Après, quand il est allé à Barcelone, où le public est beaucoup plus loin, où c'est beaucoup plus spectaculaire, mais beaucoup moins personnel, et bah, du coup, il marquait moins de buts, tu vois. Et moi, j'ai l'impression que sur scène, pour toi, c'est un peu la même chose. Alors, c'est une métaphore très.
Footballistique, ah ouais.
Tu vois?
Ouf.
Ouais. Mais du coup, j'ai l'impression que tu te sens beaucoup mieux quand t'es sur scène proche d'un public que loin d'un public.
Ah bah moi, je préfère être dans une petite salle où
voilà.
Je vois bien les gens, ouais. Ouais. Ouais, ouais.
Façon Arsenal.
Tout à fait. Bah si c'est parce que je ne connais pas leur stade. Mais oui, je préfère être dans des petites salles. Évidemment que c'est kiffant de jouer dans des grandes salles, mais pour... tu sais, c'est kiffant une fois de temps en temps, quoi. Comme quand avec le FUP,
voilà.
On fait le Grand Rex, tout ça, tu vois.
Oui.
Tu joues quand même devant 2800 personnes.
Oui.
Bon, tu vas pas te plaindre de ça. T'es content de faire tes 10 minutes devant 2800 personnes. Et je serais très heureuse de faire aussi mon spectacle devant 2800 personnes. Mais c'est vrai que quand tu joues devant 2800 personnes, tu n'as pas de proximité avec le public. Alors que quand tu joues... tu vois, moi, je suis dans une salle de 110 places, salle point-virgule. Là, t'as une vraie proximité avec les gens.
Mmh. Est-ce que tu pourrais faire ton spectacle dans une très grosse salle?
Oui, bah oui. Mais parce que le max que j'ai fait, c'était une 450 pour mon spectacle tout seul. C'était très cool d'ailleurs, mais c'est vrai que je préfère
aller à la petite salle.
Ouais.
Bon, très bien. Alors, je vais répéter un peu ce que disait Jacques Chancel à Isabelle Adjani il y a de ça plus de 40 ans.
Et dans une interview radio. Et c'est reparti avec Jacques Chancel. Ouais, il m'a saoulé avec Jacques Chancel, vas-y.
Voilà.
Je rigole.
Alors, il lui disait qu'elle a été inventée pour le théâtre. Est-ce qu'on peut dire la même chose de toi et de Marina Rollman, du coup, pour la scène, sorte de prolongement naturel de vous-même, en quelque sorte. Est-ce que vous sentez que vous avez été inventé pour le stand-up?
Mais ce serait tellement prétentieux
non,
de dire
mais,
ça.
Non, mais ça peut être tout à fait naturel de ce que dire.
Du tel, j'ai été inventé pour le stand-up.
Mais ouais, non, mais genre, ne faire.
Sans moi, ce monde ne serait rien.
Non, mais ne faire que ça, tu vois.
Automatiquement, un porte-cigarette dans la main pour moi.
Alors, ouais, non, mais c'est ouf.
Je vous reformule la question. Est-ce que tu aurais pu faire autre chose que de la scène?
Non.
Bon. Donc, tu étais inventé pour le stand-up.
Ouais, ok. On va dire ça alors.
Voilà.
Non, j'aurais pas pu faire autre chose.
Et après, on fera un questionnaire de Proust avant de. T'as les questionnaires de Proust, si t'étais ça, si t'étais ça.
Ok.
Si t'étais ça. Voilà. Télérama te place avec Marina Rollman, du coup, parmi les héritières de Blanche Gardin.
Ouais.
Comment tu le prends et est-ce que t'es à l'aise avec ce concept d'être héritière ou héritier de quelqu'un?
Écoute, c'est évidemment très flatteur en fait d'entendre ça. C'est très flatteur. Le seul problème, c'est que à force dans la presse d'être tout le temps affilié à quelqu'un, les gens t'affilient toujours à elle. Et quand j'ai des vidéos qui sortent sur les réseaux, j'ai toujours des remarques genre pas le copie de Blanche, tout ça.
Ouais,
et tu vois, à chaque fois on en parle. Genre là, son dernier spectacle, je ne l'ai même pas vu. Et on m'avait dit ça sur mon truc de l'esthéticienne. Quelqu'un a dit que je l'avais copié. Et vraiment, je lui avais répondu. J'ai dit mais alors en fait Blanche. En fait, le problème, c'est que les gens, quand ils connaissent quelqu'un et qu'après ils voient quelqu'un d'autre, ils disent bon bah cette personne, elle doit pas faire ça depuis longtemps.
C'est très français.
Sauf que ça fait hyper longtemps que je fais du stand-up. Blanche est venue voir mon spectacle. Je lui avais volé des trucs, je pense qu'elle s'en serait rendue compte et qu'elle m'aurait dit quelque chose. Et après, j'ai dit à cette personne, je ne crois pas que Blanche ait chié à la gueule de son esthéticienne. Moi, je l'ai fait, donc j'en parle sur scène en fait.
Ouais. Bon ben voilà, comme ça c'est dit. Très bien.
Ça s'est enregistré.
Ouais, ça s'est envoyé.
Voilà.
Alors, du coup, on arrive à la fin de ce très beau podcast. Et on va faire un petit questionnaire de Proust. Alors,
okay.
Attention, t'es prête?
Oui.
Si tu étais sur fond de générique.
Je suis toujours mauvaise hein, pour ça. Hein.
Si tu veux générique. Ouais, génial, voilà, très bien, voilà. Et là, ça va passer.
Oh là là.
T'as vu?
Qu'est-ce que c'est cette...
On est automatiquement en vacances avec
alors,
ce générique.
Alors, la chanson, c'est Philippe Catherine. Miami,
okay.
Album Magnum.
Ok.
Voilà. Si tu étais un film.
Dirty Dancing.
D'accord. Si tu étais un livre.
Contre la peine de mort de Robert Badinter.
Bravo. Si tu étais un personnage de l'histoire.
Olympe de Gouges.
Ah, pas mal. Je croyais que t'allais dire Simone Veil.
Non, mais oui, j'aurais pu.
Olympe de Gouges, ouais. Et si tu étais de la bouffe.
Une raclette.
Eh ben parfait, c'est sur ce mot magnifique.
C'est le meilleur mot raclette.
Ouais,
c'est
fini, c'est pas. Olympe de Gouges, on s'en fout.
Zéro,
raclette.
Zéro
ouais.
Hésitation, tu ouais. vois. Ouais. La raclette.
Évidemment.
C'est sur ce mot magnifique et si poétique. On va se quitter. Merci infiniment. On peut te retrouver où, Tania?
Eh bien, tous les dimanches et lundis au point virgule à 21h15.
Très bien. Et réseaux sociaux, Tania Dutel.
Exactement.
Facebook, Insta.
Tout à fait.
Un grand, grand merci à toi.
Merci
c'était
à toi,
un plaisir.
Merci beaucoup.
Merci infiniment. Merci, Raph. Et
merci.
À très bientôt pour un nouvel épisode de LOL Me Tender.